les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Ronan Raffray, professeur de droit à l'Université de Bordeaux, nous dessine les contours du droit de la vigne et du vin. Quatrième épisode, vin biologique, biodynamique, naturel, haute valeur environnementale, l'éclairage du juriste.
Chers auditeurs, parlons un peu de viticulture différenciée. Si un soir votre choix se porte sur une bouteille de vin obtenue en viticulture un peu alternative, il peut être opportun de vous tourner vers un juriste pour en savoir un peu plus sur ces différents signes. Grande consommatrice de pesticides, la filière viticole connaît, à l'heure actuelle, une petite révolution, presque copernicienne, et engage largement et sincèrement, je pense, une réflexion globale sur les pratiques agricoles, comme le montre l'emploi de plus en plus systématique, peut-être l'avez-vous remarqué, du terme d'agroécologie. L'agroécologie ambitionne de mêler l'agronomie et l'écologie en faveur d'une nouvelle approche agricole. L'idée, c'est de s'appuyer sur les écosystèmes pour diminuer les pressions sur l'environnement, ce qui est une garantie d'une part de maintenir une certaine productivité, on le comprend, mais d'autre part d'améliorer ses performances environnementales. L'agroécologie est encouragée par les pouvoirs publics, mentionnée par le Code rural et de la pêche maritime, et mise en œuvre par les producteurs. Elle accompagne de cette manière les demandes de consommateurs de vin, il est vrai de plus en plus sensibles à l'argument environnemental. Dans un entretien paru en 2013, le directeur de la coopérative des vins de Buzet, une coopérative viticole du Sud-Ouest qui a axé sa stratégie sur cette viticulture différenciée, décrivait de la manière suivante le consommateur de la décennie qui s'annonçait.
Un consommateur plus responsable, dont l'acte d'achat sera plus engagé. Je ne crois pas pour autant au tout bio. Simplement, je pense avec conviction que ce nouveau consommateur sera plus vigilant sur la nature durable des produits que nous lui proposerons. Il voudra des vins certes bons pour son goût, mais aussi sans risque pour sa santé, dont les pratiques de production seront respectueuses de l'environnement. Un consommateur aux tendances altères.
Le problème auquel on est finalement un peu tous confrontés, c'est qu'on peut être tout à la fois séduit par ces démarches et dérouté par l'abondance de signes, labels, logos, qui rend bien difficile la compréhension des informations apportées sur les étiquettes, et c'est ce que nous allons essayer de démêler ensemble. En préalable, il me semble utile de préciser pour nos auditeurs les notions de certification et de labellisation. La certification, c'est un procédé qui consiste à attester, après vérification, de la conformité d'un produit ou d'un service à certaines caractéristiques qui sont définies par un document technique, le fameux référentiel. Ensuite, l'engagement d'un viticulteur dans une démarche environnementale est en principe labellisé, car il faut séduire le consommateur. Il faut prendre ici le label dans son acception juridique la plus large, comme tout signe qui garantit aux utilisateurs la mise à disposition de produits ou de services qui répondent à des caractéristiques particulières régulièrement contrôlées. Labelliser consiste dès lors à apposer un tel signe sur un produit, souvent incarné par un logo qui est, selon le code de la propriété intellectuelle, l'un des signes figuratifs qui peut faire l'objet d'une représentation graphique et qui est susceptible, à ce titre, de constituer une marque. Donc, et pour faire simple, en général, le procédé est le même, on se conforme à un référentiel, ce que garantira la certification, et l'on informe le consommateur au moyen d'un label porté par un logo. Parlons pour commencer du vin biologique. Tout d'abord, le vin biologique est produit à l'aide de raisins obtenus en agriculture biologique. À ce titre, la production de vin biologique relève, en premier lieu, de la réglementation de l'Union européenne sur l'agriculture biologique, qui est un système de production agricole qui exclut l'usage d'engrais chimiques et de pesticides de synthèse, qui limite l'emploi d'intrants et qui respecte le bien-être animal. L'Union européenne a ensuite adopté, en 2012, un règlement spécialement dédié à la vinification biologique. Les dispositions les plus caractéristiques de ce règlement sont l'interdiction de certaines pratiques de vinification et l'abaissement du seuil de soufre, les sulfites étant employés lors de la vinification, pour aseptiser et stabiliser le vin. Cette superposition de réglementations, l'une finalement applicable à la production de raisins, l'autre applicable à la vinification, explique qu'une bouteille de vin biologique soit sujette à une labellisation particulière. Vous le verrez, la bouteille porte le logo européen de l'agriculture biologique, l'Eurofeuille, ce logo sur fond vert clair qui dessine une feuille blanche, mais aussi la mention « vin biologique » qui témoigne du respect de ces règles particulières de vinification. On peut aussi trouver, en complément, le logo bio AB, qui lui est représentatif de la marque française Agriculture Biologique, propriété du ministère de l'Agriculture, d'utilisation facultative en association avec l'Eurofeuille. Comment distinguer maintenant vin biologique et vin biodynamique ? Je dirais que la biodynamie se rapproche du vin biologique, mais se présente finalement comme une discipline autonome. Il s'agit au départ d'une doctrine pensée par un philosophe allemand, Rudolf Steiner, qui rejoint l'agriculture biologique dans son refus des intrants chimiques, mais va un peu plus loin en adoptant une approche globale de l'unité de production agricole. Pour prendre une image simple, un peu comme un ostéopathe qui aborderait plus globalement son patient qu'un kinésithérapeute. La viticulture biodynamique ajoute une approche que certains qualifient d'ésotérique, tenant compte des cycles cosmiques dans les pratiques de culture et cherchant à dynamiser la terre à l'aide de préparations à base d'herbes, les fameuses tisanes, l'idée étant de renforcer le processus de vie dans le sol. Ce qu'il est important de souligner, c'est qu'à l'inverse du vin biologique, le vin biodynamique est régi par des référentiels d'origine privée et par des marques collectives également privées, les deux principales étant Déméter et Biodivin, qui sont d'ailleurs plus strictes que le cahier des charges du vin biologique. Dans la conduite de la vigne, les référentiels de la viticulture biodynamique posent comme préalable la certification en agriculture biologique. Mais on notera une utilisation encore moindre du cuivre pour traiter la vigne, le recours aux tisanes pour vivifier le sol et l'élaboration d'un plan biodiversité. Dans la vinification et jusqu'au conditionnement, le cahier des charges est également plus sévère. On signalera l'abaissement des seuils de soufre et l'interdiction des matières plastiques dans le conditionnement. La viticulture biodynamique, qui s'appuie sur des référentiels et marques privées, s'appuie donc bien sur les règles de l'agriculture biologique, mais elle se montre finalement plus exigeante, conformément à cette philosophie particulière que porte la démarche. En termes de labellisation, cela expliquera la coexistence sur les étiquettes de l'Eurofeuille, signe de l'agriculture biologique, et du logo Déméter ou Biodivin, qui sont les signes de la biodynamie. Parlons maintenant d'un sujet extrêmement technique, la HVE, la haute valeur environnementale, qui, il faut bien le dire, a le vent en poupe dans la filière et auprès des consommateurs. Alors c'est quoi cette HVE ? La HVE, c'est le troisième stade de la certification environnementale de droit français. Cette certification environnementale, elle a été créée par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et on va la retrouver codifiée à l'article L611-6 du Code rural et de la pêche maritime. Pour vous donner des repères, la certification environnementale s'est substituée à l'agriculture raisonnée et cherche, comme cette dernière, à tracer une voie médiane entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique en proposant trois niveaux intermédiaires. Lorsque le troisième et dernier niveau de certification environnementale est atteint, mais uniquement lorsque ce troisième niveau est atteint, on peut parler de haute valeur environnementale. Une mention valorisante indiquant que le produit est issu d'une exploitation de haute valeur environnementale et le logo correspondant peuvent être apposés sur les produits et on le voit apparaître de plus en plus sur les bouteilles de vin. Il est intéressant de relever plusieurs choses à propos de la HVE. Tout d'abord, il s'agit d'une certification environnementale de l'exploitation, alors que le bio, lui, est un signe de qualité environnementale du produit. Ensuite, la HVE ne pose pas des exigences équivalentes au bio. Et je le rappelle, pour les pouvoirs publics, elle se situe entre le conventionnel et le bio. La HVE n'interdit pas, par exemple, le recours aux pesticides de synthèse. Elle est néanmoins fortement encouragée sur un plan politique, puisque la loi issue des États généraux de l'alimentation a inscrit la certification environnementale dans le code comme support officiel de l'agroécologie. La certification environnementale est d'ailleurs très présente dans la filière viticole, sans être encore très visible, car de nombreux référentiels mis en place dans les régions de production ont été reconnus au niveau 2, celui donc en dessous de la HVE. C'est par exemple le cas de viticulture durable en Champagne, le référentiel de progression environnementale mis en place par l'appellation et auquel peuvent adhérer les viticulteurs champenois. C'est aussi le cas pour les viticulteurs membres de l'association TerraVitis, qui regroupe des producteurs sur tout le territoire. TerraVitis avait pris appui au début des années 2000 sur l'agriculture raisonnée et a depuis renforcé ses exigences. Il s'agit donc, là encore, d'une démarche certifiée, ce qui permettra de faire une distinction avec le fameux mouvement des vins nature ou naturels, mouvement à brin libertaire qui rompt avec la tradition réglementaire du droit viticole. Porté par une recherche d'épure, les producteurs de vins naturels poursuivent finalement une démarche radicale de diminution des interventions aides extérieures et donc du recours aux intrants. Le vin naturel, c'est donc, selon l'Association des vins naturels, un vin dont les raisins sont issus de l'agriculture biologique ou biodynamique, mais un vin qui est vinifié et mis en bouteille sans aucun intrant ni additif. À l'examen, et c'est intéressant, le terme de vin naturel renvoie à l'opposition entre vin naturel et artificiel que nous avons déjà évoqué. Il renvoie aussi, alors là je ne suis pas du tout sûr que ce soit à dessein, au vin de messe qui ne tolère aucun ajout de sucre ou d'additif. On dit souvent que le vin naturel n'a pas d'existence juridique. J'apporterai une nuance. Je dirais que c'est vrai au regard de l'ordre public viticole, mais que c'est moins vrai si l'on prend en considération l'autorégulation associative, une sorte de droit spontané, pour reprendre l'expression de Pascal Demier. Le vin naturel pose in fine deux questions naturelles, sans mauvais jeu de mots aux juristes, celle de sa définition et celle de sa réglementation. Sur ces deux points, il est notable que la notion et le régime juridique de vin naturel devront s'épanouir dans un cadre qui sera dessiné par ses producteurs, l'INAO et la filière biologique, on sait bien, attentive à l'émergence d'un tel mouvement. Un rapport préparé a été, semble-t-il, enterré par l'INAO sous la pression des représentants des appellations d'origine, ce qui nous montre bien que la viticulture différenciée est aussi, peut-être, une menace pour l'unité de l'appellation.
Cet épisode des Amphis d'Amicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphis d'Amicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.